surprise. En attendant, pour terminer cette année en beauté, je vous propose d'accueillir ce soir Lucile Gély, doctorante en droit public au Centre Michel de l'Hôpital, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre une nouvelle fois en studio. Cette fois-ci, elle ne nous présente pas un billet d'humeur, mais vient débattre avec nous lors d'un focus actu plus que brûlant consacré à l'état d'urgence et à la révision de la loi 1955 consacrée à celui-ci. Après un intermède musical tout en douceur, nous retrouverons Camille Rouillon, qui n'est plus doctorante, mais bien docteur en chimie. Fraîchement diplômée, on la félicite encore. Elle s'en ira vers d'autres horizons en 2016. Même si nous espérons la revoir parmi nous prochainement et qu'une place lui sera toujours réservée dans cette émission, elle nous présente ce soir son dernier duo de doc. Oui, c'est triste, tout le monde a sa petite larme en studio. Elle a choisi de nous parler du biomimétisme, accompagné d'un autre docteur en chimie, Romain Prulot. Et car on ne dit jamais 203, si je ne me trompe pas, ils ont été aidés dans la préparation de cette chronique par un autre nouveau docteur en chimie, Alexis Collin, qui n'a pas souhaité intervenir à l'antenne. Mais bon, on lui en veut pas, quand même. Puis, Arthur Chassagnol, doctorant en mathématiques fondamentales, interviewera Khaled Weslati, doctorant à l'université Blaise Pascal et dans l'équipe de recherche qualité des produits animaux. C'est le traditionnel 8 minutes avec. Enfin, Nicolas Duraca, doctorant en sciences de la communication à l'université Blaise Pascal, présentera une nouvelle chronique « Fait de beaux rêves, doc », consacrée cette fois à Lou Koolsman ou à l'utopie de l'abolition pénale. Je suis sûre que ce sera sa meilleure chronique. En tout cas, je vais lui mettre un petit peu la pression. Je ne vous fais pas plus attendre, je vous propose d'accueillir tout de suite Lucile pour le Focus Actu.
Okay, Ronnie, I'm ready to start motion station forward.
Doctorants et docteurs, voient l'actu.
We think that the NTA is out of the trust, so you can relax a little bit with it. Okay.
C'est Focus Actu.
Hey, for you guys, take one moment to look at the overhead windows on Discovery.
Quelques heures à peine après les attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a beaucoup fait parler de lui depuis un mois. C'est un mécanisme juridique particulier qui dépend d'une loi datant du 3 avril 1955.
Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'état d'urgence du coup ?
Absolument. Pour pouvoir être réactivé, cette loi doit remplir deux conditions. Ce qu'on appelle en droit la condition matérielle, c'est-à-dire ce qu'il se passe. Il faut qu'un péril imminent résultant d'une atteinte grave à l'ordre public soit arrivé. Et il faut une condition formelle, c'est-à-dire la façon dont cet état d'urgence doit être déclaré. Ça doit se passer en Conseil des ministres. Il est assez rare en France d'avoir recours à l'état d'urgence, puisqu'il fait partie, avec les articles 16 et 36 de la Constitution, des mécanismes utilisables en cas de crise, qui impliquent de renverser un peu l'équilibre des pouvoirs. Avec l'état d'urgence, le choix est fait de donner plus de pouvoir à l'administration et à la police. Pour mémoire, on a utilisé l'état d'urgence à l'occasion de la guerre d'Algérie en 1955, puis en 1985 en Nouvelle-Calédonie et enfin en 2005 pour ce qui avait été appelé la crise des banlieues. Une fois déclaré, l'état d'urgence peut conduire à plusieurs mesures qui ne s'appliquent pas en temps normal, comme par exemple des assignations à résidence, des couvre-feux ou des interdictions de manifester, des interdictions de vente d'alcool, des saisies d'armes, même achetées légalement, ou des perquisitions administratives. Tout ceci vise surtout à gagner du temps et de l'efficacité puisqu'on contourne la voie judiciaire classique qui peut parfois être assez chronophage. Mais surtout, on agit alors qu'aucune infraction n'a été commise, on est purement dans le domaine de la prévention. Ça sonne assez agréable à l'oreille de se dire qu'on est dans la prévention, mais en vérité, cela veut surtout dire que l'État possède un grand pouvoir de restriction des libertés. Déjà, on met un petit mouchoir sur le principe de la présomption d'innocence, qui suppose que toute personne, tant qu'elle n'est pas déclarée coupable par un tribunal compétent, est innocente. La dernière fois qu'on a essayé d'oublier la présomption innocente dans le monde, ça a donné quelque chose comme Guantanamo, donc c'est pas vraiment une voie très souhaitable. Ensuite, on oublie un certain nombre de libertés, la liberté de circulation, une partie de la liberté d'expression, ou même tout simplement le droit à la vie privée. Prenons l'exemple des perquisitions. Elles peuvent se dérouler dans le cadre de l'état d'urgence, sans le contrôle d'un magistrat et sans aucune limitation horaire. D'habitude, aucune perquisition ne peut avoir lieu entre 21h et 6h du matin et tout doit être autorisé par un magistrat. Autre exemple, les assignations à résidence. Il suffit de considérer que la personne peut constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publique pour la contraindre à rester chez elle aussi longtemps qu'elle semble menaçante. Les termes sont très vagues et permettent de prononcer un grand nombre d'assignations, pas forcément liées au terrorisme, j'y reviendrai. Il ne s'agit pas de dire ici que l'autorité administrative agit mal ou qu'elle va toujours abuser de son pouvoir. Simplement, sans l'appui d'un juge et sans enquête préalable, il est complexe de repérer réellement qui peut être... précisant que pendant quelque temps, elle ne respecterait pas la Convention européenne des droits de l'homme. On a connu plus rassurant en matière de garantie des libertés.
Bah merci Lucie déjà pour cette petite présentation de ce qu'est l'état d'urgence. Ça va permettre de lancer un petit peu le débat en studio. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur une première question? Bon, moi j'en ai une. T'as pas l'air très motivé et très favorable à l'état d'urgence. Pourquoi autant de critiques à l'égard de ce processus?
L'état d'urgence reste tout de même une limitation des libertés publiques. C'est ce qu'on appelle en droit un régime d'exception. Et par conséquent, ça aura toujours tendance à limiter les libertés au profit de la sécurité. On a tendance à beaucoup opposer liberté et sécurité. Et faire le choix de l'un est toujours au sacrifice de l'autre, quelque part. Donc ça reste assez contestable.
Oui, pourtant, si on regarde un petit peu, les attentats, c'était le 13 novembre. On prononce l'état d'urgence à la base pour une durée relativement courte. Ça a été prolongé pour 3 mois, c'est ça?
Alors effectivement, l'état d'urgence a été prolongé pour 3 mois avec une écrasante majorité du Congrès, puisque 551 députés avaient été pour et seulement 6 se sont exprimés contre l'état d'urgence. Donc ça reste quand même quelque chose de très consenti dans le domaine politique, qui pour autant reste un gros sacrifice sur le plan juridique.
Ouais, moi j'ai une question. Je me demande à quel point cet état d'urgence n'est pas en fait la réponse politique à une crainte d'un vrai débat public. On le voit aujourd'hui avec le vote qui est en partie contestataire, qui est certainement malmené, mais qui veut dire des choses. On le voit aujourd'hui avec des militants écologistes ou d'autres militants pour les libertés d'expression qui veulent s'exprimer, dire des choses et qui sont largement muselés. Est-ce que cet état d'urgence n'est pas aussi le synonyme d'une crainte de l'expression des citoyens qui aujourd'hui est largement bafouée à mon avis?
Oui, effectivement, l'état d'urgence a été partiellement une réponse politique que j'aurais tendance à considérer comme détournée, parce que par exemple, la mesure d'assignation à résidence a été employée contre des militants écologistes qui auraient pu manifester pendant la COP21. Donc ça pose quand même quelques questions, puisque ce sont des personnes qui n'avaient a priori aucun lien avec le terrorisme, qui ont été malgré tout assignées à résidence. La mesure a été contestée devant le Conseil d'État, ce qui est quand même une institution importante pour nous les juristes. Et le Conseil d'État a approuvé la chose en considérant qu'on pouvait assigner à résidence des manifestants plutôt écologistes, alors que, a priori, l'état d'urgence est seulement pris dans le cadre de la lutte antiterroriste. Donc effectivement, c'est une réponse des pouvoirs publics qui est parfois assez étrange à comprendre dans ces manifestations.
Moi, j'ai une autre question. Donc, si on reste sur le fait que l'état d'urgence est bien là pour contrer d'éventuelles attaques terroristes, pourquoi, au bout de 3 mois, donc si on arrête l'état d'urgence, le risque serait moins là et ce serait légitime de l'arrêter? Pourquoi, juste après des attentats, le risque serait vraiment plus présent? Enfin, cette durée de 3 mois pour l'état d'urgence, je me demande dans quelles conditions elle va être vraiment respectée et pour quelles raisons?
Le choix de faire un état d'urgence pendant 3 mois avait été initialement motivé par le fait de courir la période de la COP21 pour que certaines manifestations puissent être évitées a priori, ou certains regroupements de beaucoup de personnes. Et la période des fêtes aussi devait être couverte par l'état d'urgence parce que ça peut occasionner un certain nombre de réunions qui pouvaient également être dangereuses. Après, le choix de faire un état d'urgence de 3 mois est un choix, j'aurais tendance à dire, purement politique, mais qui pourrait être partiellement détourné, puisque vous en avez peut-être entendu parler, il est aujourd'hui question de constitutionnaliser l'état d'urgence, c'est-à-dire de transformer cette loi en un texte qui serait constitutionnel, ce qui serait très discutable, puisqu'on maintiendrait l'état d'urgence au-delà des 3 mois. Ce serait une sorte d'état d'urgence allégé, mais qui durerait a priori aussi longtemps que les pouvoirs publics le souhaiteraient, et ce qui serait relativement discutable, puisque un certain nombre de mesures aujourd'hui ne sont pas incluses dans la loi relative à l'état d'urgence, notamment des mesures de géolocalisation des citoyens, des mesures d'écoute téléphonique, parce qu'on sait très bien que ces mesures seraient inconstitutionnelles. Et en incluant l'état d'urgence dans la loi, on contournerait purement et simplement tout ceci pour pouvoir, du coup, appliquer ces mesures de manière, encore une fois, assez contestée, puisque ce n'est pas vraiment conforme à la Constitution.
Y a-t-il en fait des chiffres qui montrent l'efficacité ou pas de cette loi d'urgence, comme c'est le cas ici pour la lutte contre le terrorisme, par exemple?
En matière de lutte contre le terrorisme, à l'heure actuelle et depuis le déclenchement de l'état d'urgence, on a ouvert seulement 2 informations judiciaires à ce sujet-là. Pourtant, on a eu plus de 2700 perquisitions qui ont été effectuées au domicile de de personnes et environ 360 personnes seraient placées en assignation à résidence. Donc c'est des chiffres quand même très impressionnants et on se rend compte qu'au final, l'état d'urgence est peut-être utilisé pour autre chose que pour le terrorisme. Les perquisitions, par exemple, montrent un grand nombre de saisies d'armes qui certes auraient pu servir au terrorisme, mais peuvent servir à autre chose. Et on a aussi une utilisation très très répandue des perquisitions pour saisir de la drogue, qui n'est pas forcément liée au terrorisme du coup. Donc on note que la mesure n'est pas forcément très efficace, ou en tout cas pas de manière directe, contre le terrorisme à proprement parler.
Alors moi je voulais juste rebondir un tout petit peu. Du coup tu disais si on l'inscrit dans la Constitution, ça permettrait de faire un état d'urgence beaucoup plus long. C'est que là forcément on ne peut pas aller au-delà de 3 mois ?
C'est ça absolument. L'état d'urgence qui a été déclaré à l'heure actuelle... et a été déclaré comme durant forcément 3 mois, c'est-à-dire que le Congrès, qui est l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, ont décidé que l'état d'urgence durerait 3 mois. Le gouvernement, s'il le souhaite, peut suspendre la mesure plus tôt. À l'heure actuelle, ça s'est assez peu fait. Hein. Pour la crise des banlieues, ils avaient décidé également d'un état d'urgence assez long et ça a été suspendu par le gouvernement. Mais en général, on conserve des mesures assez longuement. Là, a priori, ça devrait tout de même durer 3 mois, comme le Congrès l'a prescrit dans sa loi du 20 novembre.
Mais est-ce qu'il ne peut pas réadopter une nouvelle loi qui prolongerait l'état d'urgence ?
À ma connaissance, non. Il faudrait inclure ensuite la loi dans la Constitution. Mais à ma connaissance, non, on ne peut pas prolonger déjà une autre prolongation.
Est-ce qu'il y a des sondages qui ont été faits pour voir un peu l'opinion publique? Que pense justement la population du décret?
Tout à fait. Il y a eu beaucoup de sondages réalisés sur la question parce qu'au lendemain des attentats, justement, les Français ont vraiment cherché à comprendre en tant que groupe, j'ai envie de dire, la réaction qu'il fallait avoir face à ces attentats-là, parce qu'il y a eu une vague de sidération. Donc forcément, on a tendance à chercher ce que peut penser autrui. Et les Français étaient très favorables à la mise en place de l'état d'urgence et restent très favorables à l'état d'urgence. Une enquête Ipsos avait révélé que 92% d'entre eux, il me semble, considéraient que c'était la mesure la plus adaptée. Pour autant, ça me laisse assez perplexe, puisqu'il y a encore une fois un certain nombre de mesures qui posent problème en termes de liberté publique. La géolocalisation, c'est quand même quelque chose de très poussé. Ça n'est pas inclus à l'heure actuelle, mais ça pourrait l'être, et chaque Français pourrait être géolocalisé si on le souhaitait.
Et à ton avis, et du point de vue du légiste aussi, comment les médias peuvent avoir joué un rôle dans cette acceptation collective et comment aujourd'hui, légalement, ils pourraient peut-être être mis en défaut aussi par rapport à ce qu'ils font, hein, que certains peuvent juger comme propagandaire?
Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Les médias ont tendance à encourager le climat de peur, j'aurais tendance à dire, en ayant tout le temps en fil continu des interventions très stressantes et très anxiogènes pour la population de manière générale. On a vu d'ailleurs que les médias belges, par exemple, n'avaient pas du tout la même gestion des faits, puisque au moment où l'essentiel des problèmes par rapport aux attentats se déroulait en Belgique, on a demandé aux médias de ne pas communiquer du tout sur la question. Les Belges ont envoyé que des chatons sur Internet et ce genre de choses. Donc on se rend compte que les médias français maintiennent à l'inverse un climat qui est un petit peu oppressant et un peu stressant, ce qui fait que l'état d'urgence semble être une réponse cohérente, alors qu'au final, peut-être que les Français ne réalisent pas vraiment qu'on les a privés d'un certain nombre de libertés pour pouvoir essayer de faire régner la sécurité.
Oui, mais peut-être que médiatiquement, en France, on a été beaucoup plus dans ce sentiment d'anxiété et de peur. Pour autant, les mesures qui ont été prises en Belgique ont été beaucoup plus dures et beaucoup plus restrictives de liberté que celles qui ont été adoptées en France, finalement.
Tout à fait. Tout à fait. Ça a été des choix politiques très différents, effectivement.
Parce qu'en France... Tu me dis si je me trompe, on a modifié la loi sur l'état d'urgence pour l'adapter au cas particulier du 13 novembre et au terrorisme. Donc j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu ce qui a été modifié finalement. Et si vraiment ça a changé quelque chose, parce que si on y regarde bien en tant que juriste, tout ce qui était déjà à disposition des autorités de police, finalement c'est quasiment la même chose, à part ce qui est justement les perquisitions de nuit. Il n'y a pas eu de changement et le dispositif légal, même si on en a beaucoup parlé comme si c'était une grosse nouveauté, c'est la même chose. Il n'y a vraiment rien de nouveau dans la loi de 55 par rapport aux actions de police, à part cette, l'assignation à résidence et les perquisitions de nuit.
Oui, tout à fait. La loi de 1955 a été modifiée. Alors, c'est pas non plus très étonnant, puisque cette loi est en fait modifiée à chaque fois qu'il y a un nouvel état d'urgence. C'est une sorte de loi enveloppe, à l'intérieur de laquelle on met un courrier différent à chaque fois, en quelque sorte. Et cette fois-ci, on a ajouté simplement un certain contrôle des publications en matière d'apologie du terrorisme sur Internet. Donc ici, pas grand-chose de nouveau. C'était déjà dans la loi renseignement, donc en soi, c'est pas non plus révolutionnaire. Des mesures spécifiques pour les personnes assignées à résidence, hein, notamment le port du bracelet électronique, puisque c'était moins répandu auparavant. Et enfin, la possibilité très discutée pour les policiers de porter leur arme hors service, mais c'est la seule vraie innovation qu'il y a dans cette réforme du 20 novembre 2015. À part ça, on n'a pas eu beaucoup de changements au niveau de la réforme, alors qu'effectivement, en Belgique, les choix ont été un peu plus rigides, j'aurais tendance à dire. Donc en soi, l'état d'urgence français ressemble aux états d'urgence qu'on a eu auparavant. Et il est efficace sans l'être, j'aurais envie de dire, puisque en soi, c'est pas vraiment ce genre de méthodes qui vont faire diminuer le terrorisme, en tout cas pas de manière immédiate.
Pour les personnes qui finalement ont été perquisitionnées mais qui finalement n'étaient pas coupables, est-ce qu'il y a un recours finalement pour se retourner contre l'État, pour déclarer une injustice, puisque finalement on les a quand même privés de leur liberté?
Oui, très complexe question. Pendant l'état d'urgence, on considère qu'on peut avoir recours à ce type d'action. Pour autant, il y a un certain nombre de dérives qui ont été signalées, notamment des dégâts matériels. Pendant quelques temps, les perquisitions se déroulaient apparemment en défonçant systématiquement les portes, hein, sans jamais sonner chez les gens, alors que parfois certains collaborent avec la justice. Aussi étonnant que ça puisse paraître. Enfin, pas la justice ici, mais la police, puisqu'on est typiquement dans le cadre d'actions policières. Je suppose que certaines actions en réparation seront possibles, mais seulement dans le cas où une faute est avérée. Parce que sinon, on considère que c'est dans le cadre de l'action de l'État, donc il n'y a rien à critiquer là-dedans, théoriquement.
L'état d'urgence donc nous prive de certaines libertés, comme tu dis. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'état d'urgence pour faire en sorte qu'il soit meilleur contre le terrorisme, tout en respectant les libertés de chacun?
L'état d'urgence, par définition, contourne les libertés pour pouvoir agir plus vite. On a vraiment une volonté d'avoir une réponse à la fois rapide et efficace. Le problème, c'est que c'est valable sur un court terme, puisque une action rapide et efficace, on en a besoin immédiatement après les attentats, pas forcément pendant 3 mois. À mon sens, l'état d'urgence n'est pas vraiment la meilleure réponse qu'on puisse avoir au terrorisme, mais a priori, c'est pas ce soir que je vais inventer la bonne réponse au terrorisme. Non, il y a un problème de moyens considérables dans la justice et de manière générale pour des personnes qui pourraient tenter de donner une réponse, hein, des centres de déradicalisation ou ce genre de choses, seraient peut-être plus utiles qu'un état d'urgence qui, lui, va avoir tendance à peser sur l'ensemble des citoyens, alors que ça n'est pas forcément souhaitable sur du très long terme.
Ouais, toujours dans le même contexte, en fait, j'ai voulu savoir, puisque l'état d'urgence est trop controversé, en gros, est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont adopté d'autres moyens législatifs qui serait plus efficace ou qui serait différent de l'état d'urgence, mais qui aurait des résultats plus convaincants? Est-ce qu'il y a une expérience différente de la France, de celle de la France, et où justement ils ont adopté un autre moyen législatif qui a permis de mieux... lutter contre le terrorisme?
Oui, en matière de terrorisme, tous les États du monde sont un petit peu déstabilisés, forcément, et on ne sait pas vraiment quelle réponse donner. Un État, je ne saurais plus vous dire exactement si c'est la Norvège, la Finlande, mais c'est un de ces États-là, a décidé d'augmenter les budgets de la culture, ce que j'ai trouvé très intéressant, puisque ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas, il me semblait que c'était un... Mais c'est d'accord. Peut-être l'Italie, effectivement. Ouais. Ce qui semble être une réponse très intéressante, puisque même si de manière directe, ça n'a pas l'air d'agir, ça peut avoir du coup un certain intérêt, mais sur du très long terme. Alors qu'il me semble qu'en France, on a une approche justement à beaucoup trop court terme. On ne réfléchit pas vraiment, disons, à ce qui s'est passé en amont pour mener aujourd'hui à la situation qui est la nôtre. On a tendance à chercher tout de suite à mettre des pansements sur des plaies qui sont bien plus profondes. Il y a eu un problème d'intégration et on ne cherche pas vraiment à résoudre ce problème d'intégration. On se demande simplement si on ne pourrait pas déchoir de leur nationalité tous les gens qui aujourd'hui sont accusés de faits de terrorisme, alors que c'est peut-être un peu plus discutable que ça, et la plaie est plus profonde, à mon sens.
Alors c'est sur cette note que je vais être désolée de couper le débat, puisqu'il faut quand même qu'on passe aux autres chroniques. En tout cas, merci beaucoup Lucille, merci beaucoup à tous pour vos questions. Je pense que, je suis sûre même qu'il va y en avoir d'autres en off, mais malheureusement on ne peut pas continuer à l'antenne. Donc on va vous laisser sur une musique choisie avec soin par Lucille et qui va aller avec la douceur de la fin de ses propos, Les feuilles mortes d'Ibrahim Malouf et de ses étudiants. Bercé par les feuilles mortes d'Ibrahim Malouf, mais ne vous endormez pas. Il est 18h26 et nous allons encore passer plus d'une demi-heure ensemble pour l'émission Quoi de neuf doc. Nous passons d'ailleurs sans plus attendre à la chronique du hot doc.
Duo.
Duo. Doc.
Le biomimétisme est une approche qui consiste à imiter la nature pour développer de nouvelles technologies. Elle est assez ancienne, mais a plus que jamais le vent en poupe dans les laboratoires. En effet, beaucoup de problèmes que nous essayons de résoudre ont déjà une réponse dans le milieu naturel, que ce soit chez les animaux ou chez les végétaux.
Au début du XVIIIe siècle, le savant François Réaumur observe les guêpes et remarque que la matière de leur nid ressemble fort à du papier. En les observant, il comprend qu'elles mâchent du bois pour faire leur nid et a alors l'idée de fabriquer du papier à partir du bois plutôt que du chiffon, comme c'était le cas à l'époque. Son mémoire paraît en 1719, mais son intuition ne sera traduite en procédé efficace qu'en 1842. Encore aujourd'hui, le bois reste la matière principale pour fabriquer le papier et le carton.
Beaucoup d'aspects des insectes intéressent les ingénieurs, et notamment leur technique de vol. En se basant sur ce modèle, il crée des mini-drones, de petits appareils volants sans pilote qui peuvent embarquer une caméra ou des instruments météorologiques par exemple. De nombreux projets de mini-drones imitant le vol des papillons, des abeilles ou encore des libellules sont actuellement à l'étude. La technique de vol de ces insectes est tout à fait adaptée à ces appareils légers. Elle est moins coûteuse en énergie que celle des oiseaux et elle permet de voler à faible vitesse, de virer brusquement ou de pratiquer le vol stationnaire, soit tout ce qu'on recherche dans les drones modernes.
Nous venons d'évoquer les oiseaux et ces derniers inspirent aussi les chercheurs pour autre chose que leur capacité de vol. C'est le cas du pivert notamment. Pour dénicher les vers, cet oiseau passe beaucoup de temps à tambouriner avec son bec sur les arbres à raison de 20 chocs par seconde. Les chercheurs s'étonnaient qu'à la longue, le cerveau de l'animal ne soit pas endommagé par ces martèlements à répétition. Ils ont fini par découvrir que chez le volatile, le bec est séparé du crâne par un tissu spongieux qui absorbe les chocs. Un étudiant en design s'est inspiré de la structure de ce tissu pour créer un casque de vélo en carton recyclé avec une capacité unique pour absorber les chocs. Dans un registre un peu plus high-tech, les ingénieurs qui ont conçu le TGV japonais Shinkansen 500 ont donné au nez de la locomotive la forme de la tête et du bec du martin-pêcheur. Cela a eu pour effet d'augmenter de 10% la vitesse du train et d'économiser 15% de son énergie.
De nombreuses innovations inspirées par les animaux ont été regroupées dans le livre Pulp Fiction. Certaines sont plus connues, comme le fameux fil de soie des araignées, dont beaucoup de scientifiques tentent de reproduire les propriétés extraordinaires qui le rendent plus résistant et plus souple que l'acier. Il y a aussi des exemples plus inattendus, comme celui de la moule bleue. Ce mollusque produit une colle qui lui permet de s'attacher à n'importe quel support, même quand la mer est très agitée. Une colle qui est donc particulièrement résistante et qui durcit dans de l'eau. De quoi intéresser chirurgiens, ophtalmologistes ou dentistes qui, avec un adhésif de ce type, pourraient réparer des lésions organiques dans un milieu vivant. Très concrètement, actuellement, des laboratoires développent des produits inspirés de cet adhésif naturel pour ressouder des os ou des dents cassées.
Les animaux n'ont pas fini de nous surprendre et beaucoup d'entre vous connaissent probablement les chiens husky. Ces chiens vivent à des températures extrêmement basses et ils ont évolué de manière à s'y adapter. Ils dorment sur la glace et cela grâce à deux fourrures, une couche extérieure de poils épais et imperméables et dessous un duvet doux et isolant. Ce sont des chiens de traîneau capables de courir 150 km en une journée et ils sont incapables de transpirer à cause de leur fourrure. Du coup, comment éviter la surchauffe ? Comme leurs congénères, ils ouvrent grand la gueule et halètent, mais ce n'est pas suffisant pour eux. D'autres parties de leur corps vont entrer dans le jeu de la régulation thermique, leur coussinet. Irrigués par une multitude de vaisseaux sanguins, ces derniers fonctionnent comme des mini-systèmes de refroidissement, évacuant la chaleur et refroidissant le sang avant qu'il ne remonte vers le cerveau. Ce miracle de la nature nous a conduit à une invention qui pourrait nous aider à garder la tête froide. Refroidir un organisme très vite, notamment chez les sportifs. Comme les coussinets des huskies, nos mains sont très vascularisées, mais chez nous, les vaisseaux sont plus en profondeur sous la peau. En créant un vide d'air autour de nos mains, l'appareil alors inventé fait remonter nos vaisseaux à la surface, de manière à ce qu'un cylindre froid le refroidisse rapidement, alors que le sang retourne vers le cerveau.
Autre exemple du règne animal, le gecko. Ce lézard a une capacité étonnante. Il peut faire l'ascension d'un mur de verre, bien que ses pieds ne soient pas couverts de ventouses ou d'une quelconque substance adhésive. Ce lézard utilise les propriétés des forces de Van der Waals, qui correspondent aux interactions électroniques entre les molécules. Les scientifiques du BAE System en Angleterre ont reproduit ces interactions en mettant au point une surface artificielle appelée Synthetic Gecko, présentant une très forte capacité d'adhésion sans colle ni pression.
Les animaux ne sont pas les seuls à intéresser les scientifiques, il y a également les végétaux. En 1941, en revenant de la campagne en compagnie de son chien, l'ingénieur suisse Georges de Mestral remarqua combien il était difficile d'arracher toutes ces petites boules qui s'agrippaient à son pull-over et à la fourrure de son chien. Surpris par le pouvoir d'accrochage de ces fleurs, il les observa au microscope et remarqua qu'elles avaient de petits crochets élastiques qui, lorsqu'on les mettait en contact avec un tissu, s'accrochaient aux mailles. Lorsqu'on les décrochait, ils retrouvaient leur forme originelle. Il imagina deux morceaux de tissu nylon, l'un avec des milliers de petites boucles et l'autre avec des milliers de petits crochets. C'est ainsi qu'est né le velcro, qui provient de la contraction de velours et crochet, qui est aujourd'hui connu sous le nom de scratch.
La feuille de lotus possède également certaines caractéristiques particulières. Posée sur une de ses feuilles, les gouttes d'eau restent presque sphériques car elle possède des propriétés hydrophobes qui permettent aux feuilles de lotus de se protéger de l'eau. À cause de leur très faible contact avec la feuille, les gouttes n'adhèrent presque pas et roulent en emportant les poussières. L'agence spatiale américaine NASA s'est inspirée de cette propriété du lotus pour fabriquer un revêtement pour les équipements des astronautes qui empêchera la poussière de se déposer et supprimer toute pollution extérieure. D'autres applications de l'effet lotus existent dans le commerce, comme des peintures de façade, des tuiles et des tissus, ou du papier toilette.
Souvenez-vous, il y a un mois, nous vous avions parlé des robots. Eh bien, les revoilà avec le projet Octopus. Imaginé par des scientifiques européens, ce robot poulpe est capable de changer de forme, de se glisser dans des interstices et est pourvu de 8 tentacules effectuant des mouvements coordonnés pour manipuler des objets. Il reste cependant un challenge de taille pour les chercheurs, reproduire les différents moyens de locomotion du poulpe. En effet, l'animal nage parfaitement bien et il peut aussi marcher sur 2 tentacules au fond de l'eau.
Un autre robot intéressant a été développé par les ingénieurs du MIT et il est connu sous le nom de Cheetah, qui est le nom indien du guépard. Ce robot adopte le modèle morphologique du félin le plus rapide du monde pour être tiré parti. Il est maintenant le robot le plus rapide du monde avec des pointes à 45,5 km par heure. C'est plus rapide qu'Usain Bolt, à ceci près que le record de Cheetah n'a été homologué que sur tapis roulant. Cette machine extrêmement sophistiquée a été développée à des fins militaires par l'Agence de recherche pour la défense américaine, mais les secrets de sa conception sont jalousement gardés.
Pour réaliser certaines tâches, plusieurs robots limités sont parfois plus efficaces et moins coûteux qu'un seul robot extrêmement sophistiqué. Les chercheurs l'ont compris en observant des groupes d'insectes sociaux comme les fourmis et les termites. Dans ces colonies d'insectes, bien que chaque individu soit doté d'une quantité limitée de matière cérébrale, la collectivité arrive à réaliser des constructions complexes sans l'intervention d'un architecte ou d'un superviseur. Les scientifiques parlent d'intelligence en essaim et ils s'en inspirent pour faire effectuer des tâches complexes à de petits robots très simplement programmés. Ces phénomènes d'intelligence en essaim sont de plus en plus étudiés, notamment en informatique et en robotique, où des systèmes de contrôle centralisés gagnent à être remplacés par d'autres plus autonomes, plus flexibles, fondés sur les interactions d'éléments simples.
On peut aller plus loin que copier simplement des structures physiques. Pourquoi ne pas aussi copier les procédés et divers fonctionnements mis en œuvre par la nature ? L'informatique doit beaucoup à l'étude du fonctionnement des circuits nerveux. C'est le cas des réseaux de neurones, qui sont des modèles de calcul dont la conception est très schématiquement inspirée du fonctionnement de vrais neurones de nos cerveaux. On représente de façon mathématique et informatique un neurone biologique qui est capable d'apprentissage, de prise de décision et de perception, plutôt que seulement de raisonnement formel. Ces réseaux sont utilisés pour le développement des intelligences artificielles.
C'est sur cette sélection d'exemples d'applications du biomimétisme que nous allons vous quitter en remerciant notre cher collègue Alexis Collin, espèce rare de poisson docteur en chimie à l'université Blaise Pascal, qui nous a aidé à préparer cette chronique. On vous laisse en musique avec John Mayamay de Synapson. Thank you.
Vous êtes toujours au 93.3 sur Radio Campus pour l'émission Quoi de Neuf Doc. Il est 18h38, vous venez d'écouter un titre entraînant de Synapson, John Mayamay. Je laisse maintenant la place à Arthur pour un nouveau 8 minutes avec.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Raled Weslati, donc qui va nous parler un petit peu de son sujet de thèse, de ses travaux de recherche et différents angles d'intérêt. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu, alors j'ai appris le terme donc je le donne, de zootechnie peut-être. Donc Raled, je vais te laisser un petit peu te présenter et puis nous parler un petit peu de ce domaine-là et du début de ton parcours jusqu'en thèse.
Oula, bon.
Ça fait beaucoup, prends ton temps.
Il n'y a pas de souci. En fait, Raled Weslati, thésard doctorant à l'INRA de T, à 14 km de Clermont à peu près. Et je travaille justement sur la qualité des produits animaux et plus particulièrement sur la qualité des viandes. Donc en fait, si tu veux que je te parle un peu de mon parcours, après le bac, j'ai intégré une école prépa, puis une école d'ingé. Et après, j'ai fait le choix de faire une thèse justement sur toujours en relation avec les animaux et l'élevage, mais cette fois-ci sur la qualité de la viande.
Je veux peut-être juste un petit point là-dessus. Ouais. Donc tu as décidé, après ton master, tu as eu une expérience professionnelle en tant qu'ingénieur, et qu'est-ce qui
Quelle
fait...
bouche m'a piqué, en fait.
Voilà, non, mais ça m'intéresse de savoir pourquoi t'es pas resté dans ce statut-là et t'as décidé d'aller vers la thèse à ce moment-là.
Ouais, en fait, j'ai été recruté dans une entreprise qui est une filiale d'un grand groupe en tant qu'ingénieur technico-commercial en nutrition animale. Et je me suis vite rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. En fait, je pense que le fait que je vienne d'un établissement de recherche et que mes propos étaient auparavant, je dirais, on relativisait tout, on essayait de nuancer les résultats expérimentaux. Et puis, du jour au lendemain, me trouver devant des clients ou des prospects pour leur dire que mon produit était magique et qu'il améliorait de 10% la production de lait, etc. Ça m'a un peu déstabilisé, troublé. Et je me suis découvert, en fait, durant cette petite expérience professionnelle. Et j'ai donc compris que je n'étais pas fait pour ce genre de métier, mais plutôt plus orienté recherche.
D'accord, c'était peut-être trop commercial, trop business.
C'était essentiellement commercial, ouais, bien d'accord. Que bon, on englobait ça par des résultats expérimentaux, mais bon, ce sont des résultats qui étaient trouvés dans des conditions assez particulières et tout. Voilà, des résultats qui sont corrects, hein, et des chiffres qu'on donne qui sont grosso modo vrais, mais on ne donne pas toute la vérité, mais une partie de la vérité, et ça, ce n'était pas forcément ce que je voulais faire.
Ce serait très intéressant, je pense, de rentrer un peu dans le détail de tout ça. Bon, vu le temps qu'on a, on va essayer d'aller un petit peu dans le vif de ton sujet de thèse. Donc, tu travailles sur certains trucs au niveau de la qualité de la viande. Je vais citer le sujet de thèse comme milieu de rigueur. Modélisation des phénomènes oxydatifs en relation avec les qualités des produits animaux. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se cache derrière cet intitulé?
Ouais, en fait, je vais mettre peut-être le sujet dans son contexte. Il fait partie d'un projet. Et le projet vise à améliorer, on va dire plutôt à lutter contre le gaspillage et puis à mettre en œuvre une alimentation plus adaptée aux personnes âgées parce que justement, la proportion des personnes âgées d'ici quelques années va augmenter. Et donc, ces personnes âgées ont des besoins spécifiques. Et le but, dans mon cas du moins, est de faire en sorte que la viande consommée par la personne âgée soit de meilleure qualité.
Et alors, tu mets des... Enfin, ta recherche... c'est pour être appliqué au moment où on fabrique la viande, etc., ou c'est des contrôles après, a posteriori, pour les personnes âgées chez elles?
Ouais. En fait, comme tu l'as dit, en fait, il y a le terme modélisation, et du coup, j'ai deux parties dans ma thèse. Il y a une partie expérimentale où je travaille sur de la viande, et puis une partie modélisation dans laquelle le but est de mettre au point, on va dire, un logiciel informatique, si on peut appeler ça comme ça, qui permettrait aux industriels de prédire la dégradation de la qualité de la viande durant la conservation ou la transformation. Transformation, ça peut être... cuisson, ça peut être marinade, etc. Du coup, c'est un logiciel qui permet justement de prédire ce qu'on appelle les oxydations, en gros des choses pas très bonnes qui, en lieu dans la viande et qui dégradent la qualité de la viande.
D'accord. Donc oui, on n'améliore pas forcément la qualité de la viande elle-même, mais on permet de contrôler quand les moyens mis en œuvre ne sont pas bons et qu'on a une viande qui va facilement s'oxyder et devenir de mauvaise qualité. D'accord. Et alors, juste quelques mots. Bon, on arrive vite à la fin de la rubrique. On n'est pas en avance ce soir. Après la thèse, tu projettes de continuer, du coup, dans la recherche, peut-être de retourner dans le milieu industriel. Je ne sais pas quelles sont tes envies pour l'instant.
Jusqu'à maintenant, je ne peux pas dire que j'ai une idée claire. Mais en gros, je suis plutôt intéressé par l'enseignement, dans un premier temps. Et puis, pourquoi pas, oui, justement, intégrer, par contre, un poste plutôt technique en industrie, je dirais, agroalimentaire, pas forcément en relation avec la viande, mais...
D'accord, je suis bien d'accord. Je pense que c'est le plus beau métier du monde, enseignant. Donc, je vais laisser Raled conclure en nous donnant le nom de la musique qu'il a choisie, que je vais le laisser prononcer ça et peut-être nous dire un mot sur le choix de cette musique, s'il a envie.
Ouais, je vais justement parler de la musique que j'ai choisie. Il s'agit d'une chanson de rap. Le rappeur est tunisien, parce que je pense que je viens de l'autre côté de la Méditerranée. Et du coup, je dédie justement cette chanson aux jeunes Tunisiens détenus à cause de la loi 52. C'est une loi qui prévoit en fait un an d'emprisonnement ferme et 500 euros d'amende pour avoir fumé un joint. Donc il y a tout un mouvement guidé par la société civile pour justement moduler ou plutôt améliorer cette loi. Du coup, il s'appelle Clay BBG et le nom de la chanson, c'est Junta Tanaumi, un joint pour bien dormir en gros.
خراب قحلة لفاعي أحلى في الدم تستحلى لبدنا تصمم وخيعهم في بحر غرق دوينا النحر بزغد وأحلى بز الزمن سيغيروا لحنا لازم يجي نهار خويا طفى فيه الشدة والقلق راكش بحنوسي وموزيكتي تونس ليست صديقتي مخليهم يا غلي واللي في ظهري حكي وما لقيتهم أبناء وطليقتي صبورة سوداء طريقتي شفيف حوضة ثقتي منش كبر في روضة في راسي بشر روضة أعشق الفوضى حقيقتي تونس شبحنا منك تره عليك القلب كرس تره فقر ومزريع حشف الريع لينا شادة عصا أذن عدويا الآن أسمعي حروف معقدة كالأصمعي رجعتم الرجولة أن تصيرون رجالا فأجابتكم بأصبعي فر راسي تهز فر شعب فر فش قف مسافر تيقر غل غلفك في حد دخل زطلة بر صح رضا رجع حبي طب مطاع بيط الحبس تحل بلد نتشا شعر رمانت مخي فيها زايد خار رمانت قالك من والديها من المنافق اللي فيها رب اعطينا رحمة من لدنك شباب وناس هي مزنك في المقاهي مبنك اتعبش كأقرب اللي خدمنا ديما فوق رأى النظام وفي تحت منا محنك فخري كسر بعضه بلد تبسي ما مثلنش سليمكم وسبسي لحم الهم من ايام.
Vous venez d'écouter le morceau de rap tunisien de Clay BBG, un joint pour bien dormir. Je vais me contenter à la traduction française puisque mon arabe n'est pas très bon, je suis désolée. Restez avec nous pour la nouvelle chronique Faites vos rêves doc, consacrée à l'utopie une fois encore et présentée par Nicolas Duraca.
I am happy to join with you today. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream.
Faites vos rêves doc.
Et bonsoir à tous. Alors, le mois dernier, alors que je m'insurgeais, effectivement, du manque de participation de nos auditeurs et de nos lecteurs, Barbara m'a sorti de son chapeau, non, excusez-moi, de son iPhone, le nom d'un personnage improbable. Oui, un iPhone, un smartphone, tout ce que tu veux, peu importe. En tout cas, le personnage, il était improbable. Luke Hulsman. Alors peut-être que, comme moi, vous êtes-vous jamais posé la question de la légitimité du système pénal ? Pourquoi avons-nous besoin d'un système pénal ? Pourrions-nous nous en passer, hein, de ce fameux système pénal ? Une société sans juge, sans loi, sans police, est-elle possible ? Une société utopique, en somme. En tout cas, c'était l'impression que j'avais au départ. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas Lodewijk Henri Christian Hulsman, dit Luke Hulsman, juriste et criminologue néerlandais qui vécut entre 1923 et 2009. Celui-ci a proposé une vision très claire du système pénal et de sa nécessaire transformation. Je m'explique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système pénal pour Hulsman ? C'est un ensemble de textes, de doctrines et d'idées. C'est aussi un certain nombre d'organes officiels qui fonctionnent mutuellement, c'est-à-dire la police, ministère public, tribunaux, administration pénitentiaire, ministère de la justice, parlement, et j'en passe. C'est aussi le lien spécial entre les activités pénales des organes officiels susmentionnés et les médias, ainsi que la production d'effets dramatiques qui est fondée sur ce lien. Les représentations du crime, du criminel et du système pénal au sein de la population. Vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir. Plus précisément, pour Hulsman, le système pénal est un « mal social ». Le mot est lancé. C'est-à-dire une logique de jugement dernier où un dieu omnipotent et omniscient s'attache à purifier par la souffrance du coupable les actes considérés comme mauvais. Le système pénal est, comme toute institution sociale, le fruit d'une construction par l'homme, les hommes, de ce qui lui semble juste de son point de vue. Pour le dire autrement, le système pénal opère par des mécanismes réducteurs des problèmes humains en transformant les événements concrets en problèmes abstraits et en procédant à une réduction de la complexité de la réalité à travers des grilles d'interprétation stéréotypées qui uniformisent, réduisent et déforment cette réalité. Pour Hulsman, le système pénal est aussi un vol, c'est plus curieux. C'est-à-dire que le conflit est subtilisé aux personnes directement intéressées, soit la victime et le délinquant, qui se voient attribuer des rôles passifs dans le règlement de leur conflit. Les individus deviennent des incompétents sociaux pour régler leur conflit. Pour éviter ce vol, il faut abolir les techniques de régulation des conflits qui se situent à un niveau macro et favoriser celles qui se situent à des niveaux méso et micro. Enfin, le système pénal est un monopole de l'État dans le domaine de la violence symbolique et physique légitime. On en a parlé tout à l'heure. Ainsi, tout système juridique dispose de mécanismes sanctionnels. En ce sens, il existe une sanction propre au système pénal qui crée particulièrement des souffrances, la peine de prison. La prison désocialise et infantilise le détenu et le prive ainsi d'un retour facilité au cœur de la vie sociale. Donc, si je résume, pour Hulsman, le système pénal est un ensemble de textes et d'institutions issus directement d'une vision religieuse, celle du jugement dernier. Par ailleurs, celui-ci, par des grilles d'interprétation stéréotypées et déformant la réalité, transforme les acteurs d'un conflit en idiots, les prive de la possibilité de régler ce conflit et vise à punir les méchants en les mettant en prison, ce qui les castre socialement. Et ce n'est pas fini. Il va ensuite plus loin en questionnant en profondeur la nécessité du système pénal. Il développe alors plusieurs points. Tout d'abord, il estime qu'aucune étude n'a jamais pu mesurer l'impact préventif du système pénal. Il existerait, selon Hulsman, une approche plus positive du règlement du conflit, notamment en amont de ceci, et en particulier si les gens avaient une connaissance et une conscience plus approfondie des sanctions pénales existantes. En gros, si les gens étaient plus éduqués et mieux informés, ils auraient plus conscience des risques encourus et feraient moins de conneries. Ensuite, il affirme que la population se contente du système pénal car un sentiment d'insécurité les a peu à peu gagnés. En effet, c'est à travers les médias que la population se fait une représentation de ce que sont les crimes, le criminel et la criminalité. Cette représentation est biaisée car les médias, pour des raisons économiques, s'intéressent quasi exclusivement aux événements dramatiques. En agissant de la sorte, les médias fabriquent de toutes pièces auprès de la population une peur qui est indépendante de la fréquence et de la nature réelle des infractions commises. Ces représentations fantasmatiques de la population se traduisent par son attachement aux principes répressifs. Par ailleurs, il estime,
quand je dis il, c'est Haussmann, estime qu'affirmer que supprimer le système pénal viendrait à favoriser l'apparition de milices privées basées sur l'autodéfense punitive est, selon lui, complètement faux. Selon Haussmann, ces milices existent déjà alors que le système pénal fonctionne. Or, comme le dit le criminologue, si les gens acceptent un système répressif, c'est parce qu'ils croient que seul un tel système est capable de les protéger. Donc, les gens abandonneront leurs réflexes punitifs lorsqu'ils constateront que l'abolition du système pénal aboutit à une meilleure prise en charge des dangers. Enfin, pour Haussmann, une société avec un système pénal ineffectif existe déjà. En effet, pour lui, tous les problèmes et les conflits sociaux ne sont pas traités par le pénal. Il prend ainsi l'exemple des problèmes fiscaux, financiers, douaniers ou encore, et surtout, écologiques, qui se résolvent le plus souvent par la négociation, la transaction, l'arbitrage ou le mensonge. Et oui, le mensonge aussi. Pour lui, tout dépend ainsi de la volonté politique d'aller ou pas vers une autre forme de résolution des conflits. Donc si je résume, Haussmann estime que l'on n'a pas trouvé l'efficacité du système pénal, alors il estime qu'un autre système pourrait être envisagé. Que ce système n'a pas encore été pensé, car les médias nous font peur et fabriquent notre approbation d'un système répressif. Que les gens peuvent abandonner l'adage punitif en participant à une meilleure prise en charge du danger. Et enfin, rien n'empêche de penser à un autre système, car il y a déjà plein de cas dans lesquels on s'en passe. Voilà comment nous arrivons à la question de l'abolition du système pénal. Or, Haussmann le répète, il ne faut pas tant un droit pénal meilleur que quelque chose de meilleur que le droit pénal. Il ne s'agit pas de procéder à un changement dans le système pénal, mais bien à un changement du système pénal, allant jusqu'à l'abolition. Pour concevoir une société sans système pénal, il est nécessaire de critiquer sa logique et son langage. Pour cela, il propose plusieurs réflexions, c'est-à-dire l'abolition de la notion de crime et de ses dérives. En effet, le crime et sa représentation est une production sociale. On peut changer une production sociale en participant à son changement et à sa perception. On peut modifier la valeur symbolique de l'approche du crime et donc nos présupposés sociaux en agissant sur les institutions et les mécanismes de contrôle social. Il s'agit de stimuler différents styles de contrôle social pour ne pas se limiter au style punitif. Car en effet, dans ce que Haussmann nomme une situation problème, il s'agit d'éviter l'intervention pénale, que l'intervention pénale soit perçue immédiatement comme la manière adéquate de résoudre celle-ci. Plus précisément, la notion de situation-problème témoigne de l'importance du contexte. Il faut démêler le rôle de chacun dans la genèse de la situation-problème. Il faut restituer le problème dans son contexte interpersonnel, culturel et sociopolitique. Personnellement, ce que je trouve intéressant avec la notion que développe Haussmann, c'est qu'elle permet de relativiser la dichotomie innocent-coupable en pointant l'existence de certains problèmes sociaux généraux. C'est ce que notre intervenante nous disait tout à l'heure en fin d'intervention. Cela permet de sortir de la seule notion de gravité à partir de laquelle on hiérarchise les comportements indésirables et qu'on établit un tableau de sanctions. Plus le comportement est grave, plus la sanction sera sévère. Le rapport entre la gravité du comportement et la peine infligée est moins dépendant du contenu intrinsèque de la sanction que de la signification symbolique de la sanction. Ainsi, même si la peine de prison remplit une fonction symbolique importante dans le système actuel, il n'y a pas de raison que les sanctions monétaires ou autres ne puissent pas remplir cette même fonction. Par ailleurs, pour Haussmann, la situation problème voit le jour dans les groupes sociaux locaux. Ces groupes jouent encore actuellement un rôle important dans la gestion des conflits qui ne sont pas définis pénalement. Ces groupes permettent la désaliénation, car chercher une solution avec d'autres est déjà en soi une activité libératrice. À tes souhaits. Pour terminer, Haussmann aborde la résolution des situations problèmes en proposant des pistes d'action. La première serait de garder les institutions mais de leur attribuer un rôle différent. Les acteurs de ces institutions devraient alors modifier leur représentation et leur mode d'action. Par exemple, la police aurait davantage un rôle d'assistance à la population. Ses missions de gardien de la paix publique et de conciliation se verraient augmentées, ce qui contribuerait à l'amélioration de l'image de cette institution auprès de la population. Ensuite, seules les personnes directement concernées peuvent décider de faire appel à des personnes extérieures pour régler leurs conflits. Et celui-ci ne doit pas disparaître, mais il doit être intégrateur. Lorsqu'une intervention extérieure apparaît inévitable, par exemple un meurtre, il faut privilégier le recours aux groupes sociaux naturels. Une commission ad hoc est réunie car ces éléments sont variables en fonction des gens qui viennent la solliciter. Leurs membres qui sont des volontaires bénévoles doivent être proches de ceux qui sont impliqués dans le conflit. Ils ne sont pas préparés à résoudre les conflits, mais ils sont entraînés à ne pas proposer de solution. Ils aident les gens à s'écouter et à reconnaître la nature de leur conflit. En dernier cours, il faut privilégier l'intervention des procédures d'arbitrage dans lesquelles un arbitre propose une solution élaborée par lui-même. Si je résume et que je termine, Hulsmann préfère la médiation à la sanction. La médiation est ici vue comme un processus au cours duquel un tiers neutre permet aux parties de confronter leur point de vue et leur propose de rechercher une solution commune à la situation problématique qu'elles ont vécue. Ainsi, dans une société qui fait une place importante aux mécanismes de médiation, les gens ne se déchargeraient plus sur des organes officiels de la résolution de leurs conflits. Ainsi, les gens seraient moins tentés de croire aux remèdes miracles venant de la justice officielle. Les processus de médiation se suppriment par la notion de responsabilité personnelle. Ils permettent simplement que cette responsabilité soit assumée dans un cadre non si stigmatisant. Si ça, c'est pas de l'utopie, la délibération plutôt que la sanction. Allez, tiens, vive Hulsmann et vive la démocratie. En ce moment, ça fait du bien.
Merci beaucoup, Nicolas. Du coup, effectivement, je pense que ta chronique était très intéressante, donc je ne t'ai pas coupé, mais nous allons faire supprimer la dernière chanson, puisqu'il est déjà l'heure de nous quitter, malheureusement. Mais le but de cette émission, c'est aussi de partager. Donc, on a partagé une chronique relativement intéressante et qui regroupe, à mon sens, toutes les disciplines. Et le but de cette émission, c'est évidemment ça, le partage, qu'il s'agisse de sciences, de musique, de culture. Donc, je suis ravie de clôturer la saison 2015 de Quoi de Neuf Doc sur une chronique qui m'a beaucoup plu. En même temps, si quelqu'un a la curiosité de regarder mon sujet de thèse, c'est ça. Donc forcément, je ne pouvais qu'être heureuse d'écouter cette chronique. Et je serai très heureuse de continuer cette belle aventure avec vous en 2016. Pour patienter, n'hésitez pas à consulter les podcasts de l'émission sur le site de la radio www.campus-clermont.net, sur le site de Doctoverne www.doctoverne.fr ou encore sur le Facebook de l'association. En tout cas, en attendant, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je vous dis à très vite. Et ce que je vous propose, c'est que plutôt que de nous quitter sur le générique, de nous quitter sur la chanson choisie par Nicolas, Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Bonne soirée à tous. I hear the train a-coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. And time keeps dragging on. But that train keeps rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. But there's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. That railroad train was mine. I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.